Saint Guénolé. Lorsqu'on ouvre un des vieux livres où la vie des saints de la Bretagne armorique est contée par l'histoire et chantée par la légende, à voix si douce et si voisine qu'il n'est pas aisé toujours de les reconnaître l'une de l'autre, on rencontre à chaque page le nom de la Grande-Bretagne, de l'île peuplée de Celtes aussi, d'où venaient, traversant la mer vers la Bretagne mineure, des apôtres qui vécurent parmi nous et figurent parmi nos saints. C'est pourquoi le vieil hagiographe dominicain Albert le Grand a pu écrire joliment. En commençant le récit de la vie de Saint Jacques, je cite, « Il faut avouer que si nous avons obligation à la Bretagne de nous avoir conservé plusieurs saints et excellents personnages, nous n'en avons pas moins à l'Angleterre de nous les avoir envoyés. » Fin de citation. N'est-elle pas la patrie de Saint Brieuc le Gallois, de Saint Méan, de Sainte Nénoc, fille de la race princière de Gutierne, de Saint Goulven, de Saint Malo, de Saint Efflam l'Irlandais et de tant d'autres? Peut-être devons-nous aussi à la Grande-Bretagne ce comte Fragan qui fut le père de Saint Guénolé. C'est possible? Ce n'est pas sûr, et quelqu'un démontrerait sans que j'en fusse étonné que ce comte de Léon et de Cornouailles était né dans la presqu'île de chez nous. Quelques traits de la vie de Saint Guénolé, tels qu'on peut les lire dans les auteurs anciens, sont tout à fait hors de doute. Par exemple, ceux qui se rapportent à l'éducation du petit seigneur, à l'abbaye dont il devint le chef et le modèle, à l'amitié qui le liait au roi de Bretagne. Ils nous remettent dans le vrai d'une époque si facile à trahir et si souvent trahie par la passion des historiens modernes. Ils retracent un caractère fort, net et fort complet. Ils expliquent la piété des provinces celtiques envers un de leurs vieux saints demeuré populaire. Ce sont de belles leçons. J'ouvre donc l'énorme volume intitulé « Les vies des saints de la Bretagne armorique » par Albert le Grand de Morlaix. À la date du 3 mars, qui fut celle de la mort de Guénolé, nous apprenons de quels parents il naquit. Je cite « Le valeureux et magnanime prince Conan Mériadec, qui avec son beau-frère Derdon et son neveu Fragan, jeune seigneur de grande attente, avait favorisé Flave Maxime Clémence en son passage Esgaule, s'étant fait couronner roi de la Bretagne armorique, choisi pour son séjour ordinaire la ville de Nantes. » Fin de citation. Il voulut récompenser Fragan et le maria à une dame noble du nom de Gwen, c'est-à-dire Blanche. On comprend dès lors que les jeunes époux retirés dans le comté de Léon, dont ils avaient reçu le gouvernement, et pu nommer leur enfant premier Guénolé, c'est-à-dire il est tout blanc. Guénolé, comme les enfants de son rang et de son temps, semblait né pour le devoir des armes, car c'est un devoir de prince, et non le dernier, de défendre la terre et les familles qui lui sont confiées. Le comte le voulait faire bon écuyer, bon archer, bon escrimeur d'épée et de hache, bon capitaine de partisans au service du roi breton. Et quand Guénolé eut une quinzaine d'années, on commença de parler de son prochain séjour à la cour de Nantes et de lui faire apprendre ce qui constituait alors l'art de la guerre. Guénolé ne se souciait point d'être page. Il s'était promis en son cœur au service de Dieu. Il y eut là, entre le père et le fils, une cause de dissentiment et pour chacun une épreuve. Elle dura peu, le ciel s'étant mis du côté de l'enfant. Un jour que Fragan voyageait, escorté pour quelque affaire de sa seigneurie, il fut, en rase campagne, surpris par un si violent orage et une pluie si serrée qu'en un moment toute la troupe fut mouillée jusqu'aux os. Ni lui ni ses hommes d'escorte n'étaient gens à se troubler pour un orage ordinaire. Ils en avaient vu d'autres, et leurs cottes et leurs hauts de chausse avaient plus d'une fois séché, accrochés à des clous, au retour des manœuvres, dans la salle des gardes. Mais les coups de ce tonnerre étaient si impérieux, les éclairs autour d'eux foudroyaient le sol à si courte distance, et ces lances d'or tenaient les compagnons si bien emprisonnés, que le comte, baissant la tête et tendant le dos à la tempête, n'osa changer de place, et pensa promptement que c'était là, et pourquoi pas, un avertissement du Seigneur de toutes choses. Aux heures de grand péril, nous sommes plus aisément de bonne volonté. Il promit que, s'il échappait à la mort, non seulement il n'empêcherait pas, mais même il introduirait son fils à la vie monastique. L'orage ayant cessé, Fragant put rentrer au château. Le narrateur ajoute, la bonne dame Gwen et son fils Guénolé, étant venus au-devant de Fragant, après les caresses accoutumées, entendirent de lui tout le succès de voyage et le vœu qu'il avait fait, dont la bonne mère et son fils remercièrent Dieu. Dès que les habits furent secs et qu'on eut pris le loisir de préparer le départ du jeune homme, autant dire quelques jours, le comte Fragant quitta de nouveau le château, cette fois pour mener son fils premier-né, son successeur espéré, à l'ermite Corentin, qui vivait en la paroisse de Plouvaudierne de Cornouailles, à la lisière de la grande forêt du Nevet. Si l'on veut entendre exactement les choses, Guénolé entrait au petit séminaire. Voici ce que ne sait guère et ce qu'il faut retenir. Les ermites de ces premiers siècles, du moins les plus fameux d'entre eux, enseignaient la discipline chrétienne, la science des mœurs et les lettres humaines à des disciples choisis parmi les fils de seigneurs et aussi dans le peuple. Ils formaient ainsi parmi des populations encore païennes ou à demi païennes des élites religieuses d'où sortirent beaucoup de saints. Dans un livre savant publié en 1923 sur la formation de la nationalité au Pays de Galles, M. Jacques Chevalier, professeur à l'Université de Grenoble, a relevé ce même trait d'une grande importance historique. Il parle des monastères des Pays de Galles et d'Irlande, fondés par des saints illustres, un siècle environ après l'époque où vivait en Bretagne Saint Guénolé. Mais il est évident que la pensée était la même, d'une rive à l'autre de la mer Bretonne, et que les grands abbés du VIe siècle, dans les pays du Nord, n'ont fait qu'imiter ce que les ermites de l'Armorique avaient commencé de faire dans l'âge précédent. Je cite M. Jacques Chevalier, « Leur monastère comprenait en plus des moines un grand nombre de discipuli laïcs. De la description du monastère de Cadoc, il ressort que les clercs ne formaient guère que le quart de sa famille monastique. » Gilda ne se contente pas d'élever et de plier à la discipline monastique quelques fils de famille noble, mais afin de pouvoir offrir au Seigneur un plus grand nombre de fidèles, moines lui-même, il tire ses disciples des rangs du peuple et groupe en compagnie monastique les pauvres, les orphelins, les malheureux. Il arrache les esclaves à la servitude où les tenaient les païens, en sorte qu'instruit par son exemple et par sa parole, les peuples de l'Irlande, de l'Angleterre et des pays étrangers le reconnurent pour leur maître et leur libérateur. Le monastère devint ainsi l'école du peuple et, selon le mot juste d'un historien de l'Écosse, le foyer d'une vie nationale nouvelle. Fin de citation. Ainsi avait commencé de faire en Bretagne Saint-Corentin et ce n'est là sans doute qu'un exemple. Autour de l'ermitage, le fils du comte Fragant eut comme condisciples deux jeunes hommes qui devinrent des saints, Jacu et Tugdin, et d'autres comme ce tête Géonus qui s'endormit dans les champs en lisant un livre, fut mordu par un serpent et tout enflé déjà noir, dut son salut à la prière de Guénolé, plus puissant en vérité que son père et comte déjà à la cour terrestre de Dieu. Les temps étaient rudes. ils nous paraissent tels surtout à travers l'énorme légende et tous les discours qui déforment les lointains de l'histoire. Il suffit qu'il y eût des serres, des châteaux forts, des combats de partisans et parfois des disettes locales. Il suffit de moins et que le costume ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui pour que certains décrètent de barbarie toute une époque et tout un peuple. Non, il y avait ça et là de la lumière et de la paix, et cela marque un grand progrès sur les âges païens. Une floraison humaine s'épanouissait dans le monastère d'hommes et de femmes, lys et liserons de la lande. Les violents connaissaient la loi. Le remords souvent galopait en croupe des chevaux d'armes. Des cantiques répondaient aux cris de mort. Des saints se mêlaient aux tribus encore sauvages et séparées de qui devait naître un jour le royaume de France. Guénolé ne sortit guère de son Léon et de sa Cornouaille. Il était trop illustre, homme de naissance et de mérite ensemble, pour ne point être obligé, cependant, de quitter la solitude où son âme trouvait sa force et sa joie dans la constante prière. Devenu prêtre, désigné par saint Corentin lui-même, contraint d'accepter l'épiscopat et de gouverner l'église de Quimper, pour diriger le monastère de Landévennec, il recevait là fréquemment la visite du roi Gralon. C'était presque un voisin, ce roi Gralon, successeur de Conan Meriadec. Avec sa cour et son train, il avait abandonné Quimper, l'ancienne capitale, pour s'établir dans la plaine qui est maintenant la baie de Douarnenez et dans la ville d'Is, grande et voluptueuse. Que de chars à bœufs j'aperçus sur les routes de Cornouailles et que de guets traversés d'une berge à l'autre de ces petits fleuves côtiers que deux fois le jour la mer fait remonter vers leurs sources. Gralon avait besoin d'un conseiller intègre, patriote et non courtisan. En ce temps-là, comme à présent, pour d'autres raisons et pour les mêmes, conduire les hommes était une difficile affaire. Et de même que le roi venait à Landévennec sous prétexte de chasser et d'y trouver du repos, l'abbé allait dans la ville d'Is pour lui rendre visite. Guénolé vivait en intimité avec le paradis. Les Bretons le savaient, et c'est ce que veut dire en tout cas l'usage qu'on fit de son nom dans la grande légende de la mer bretonne, lorsque les poètes se mirent à raconter la fin de la ville d'Is. Il priait Dieu si souvent que Dieu lui répondait, quelquefois autrement que par la paix habituelle et par le don de sagesse, comme on peut le lire, d'ailleurs dans la grande vie de beaucoup de saints. Parmi les traits qu'on raconte du grand abbé de Landévennec, j'aime surtout ceux qui révèlent en lui la puissance du regard intérieur de l'âme qui lui permettait de voir ce que nous ne voyons pas. Il désirait, par exemple, d'un désir de sainteté, s'entretenir avec le grand Patrice, apôtre de l'Irlande, afin d'apprendre de lui les secrets de la perfection, infinis comme ceux de la nature. Je cite « J'irai s'il le faut » jusqu'en Hibernie pour le rencontrer. » Fin de citation. C'était en ce temps-là un voyage bien difficile et c'est de nos jours encore un long voyage. Tout occupé de ce projet et demandant au ciel de connaître la volonté divine, il était demeuré prosterné devant le Saint-Sacrement dans l'église abbatiale après que ses moines s'étaient retirés dans les dortoirs, ayant ensemble chanté matine, et il était donc environ 2 heures du matin, lorsque Patrice l'Irlandais lui apparut et vint à lui fraternel et lumineux, disant, je cite, « Serviteur de Dieu, pour ne priver tes religieux de ta présence à tant d'eux profitables et ne t'obliger à un voyage si long et si pénible, Dieu m'a envoyé vers toi. » Fin de citation. Aussitôt, ils s'entretinrent du gouvernement des monastères et de la méthode la meilleure de se sanctifier soi-même et de sanctifier les autres, ce qui les mena toujours parlant et le cœur en joie jusqu'à l'office de prime qui se récite à 6 heures du matin. Ainsi encore, la veille au soir du jour où il devait mourir, l'église où il se trouvait prosterné, tout vieux et tout cassé, fut soudain illuminée. Ce grand éclat, vous le devinez, accompagnait un ange et disparut avec lui lorsque l'ange eut annoncé que le lendemain serait pour Guénolé le jour de la mort et de la récompense. L'abbé fut tout réjoui de la nouvelle, passa la nuit en oraison et le matin venu assembla dans la salle capitulaire ses religieux auxquels il raconta sa vision et fit un dernier commentaire de la règle. Puis il se choisit lui-même un successeur, nommant à la place son disciple Vénaël, après quoi, s'étant un peu reposé, car la fièvre le tenait bien fort, il se fit mener de nouveau à l'église. Le vieux chêne, sentant la cognée, voulait tomber du côté où plongeaient ses racines. Toute sa résolution d'âme, Guénolé l'employa à célébrer la messe conventuelle, à communier tous ses moines, à tracer dans l'air au-dessus de l'assemblée le dernier signe de croix. Dans l'église autour de lui, il apercevait des troupes d'anges descendus en ambassade, compagnons de l'éternité. La douleur qui le dissolvait ne lui était de rien. Il expira dans la joie, à l'autel, le 3e jour de mars, dans la 38e année de sa profession religieuse. Nous répéterons que cette histoire de l'aïeul des saints bretons est en somme un portrait. La tradition rapporte qu'il était extraordinairement grand. Elle dit que Guénolé avait tant de révérence pour Dieu présent parmi nous qu'on ne le vit jamais assis dans les églises. Il était à genoux ou sur le bout. Son humeur était d'une égalité voulue, donc héroïque. Les chagrins ne le rendaient pas triste. On ne le voyait pas se réjouir immodérément. D'esprit net, persuasif et de cœur débonnaire, on dut voir en lui la promesse d'un temps où il y aurait beaucoup de justice et une paix fraternelle entre les hommes. Ses contemporains firent sans doute, pour leurs petits-enfants, ce rêve qui échappa à ceux-ci comme il nous échappe à nous-mêmes, ce qui rapproche singulièrement les âges. L'abbaye de Landévennec fut détruite au Xe siècle par les Normands, puis rebâtie au XIe siècle. Pour la seconde fois, elle est, depuis longtemps, ruinée et sans doute à jamais. Des pans de murailles, quelques bases de colonnes et de piliers indiquent le lieu où s'élevait l'église du plus célèbre monastère de la Bretagne. Mais le nombre est toujours grand des églises et des hommes vivants qui ont été placés sous le patronage du fils du comte Fragan et de la dame qui voulut le nommer au baptême, il est tout blanc.